Luc chapitre 10, versets 25 et 26. Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi, et comment lis-tu ? » Bonjour à tous, frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse, en vous souhaitant, comme d'habitude, un bon sabbat. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié une des études que je vous avais partagées il y a plusieurs mois de cela, sur la réforme vestimentaire. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait une première partie à laquelle je n'ai pas donné de suite. C'était volontaire. C'est parce que j'estime que c'est un sujet qui nécessite une certaine cohérence de la part, d'une part, de celui qui présente le sujet afin que celui-ci soit présenté dans l'esprit de la vérité, pas simplement comme des règles et des régulations. Et c'est pour cela que j'ai laissé, c'est une des raisons pour laquelle j'ai laissé du temps s'écouler, afin de vraiment pouvoir m'imbiber personnellement de l'esprit de Christ, de la religion de Jésus, afin que je puisse vous présenter ce sujet, non pas simplement comme une instruction dans le légalisme, mais comme quelque chose de véritablement qui fait véritablement partie intégrante de tout le message de la parole de Dieu et de l'évangile, et plus largement du message des trois anges. Parce que le titre lui-même nous indique que cela fait partie des choses que Dieu a mis en lumière aux yeux de son peuple à travers ses 50 années de formation de cette fameuse plateforme de la vérité. Nous avions vu la réforme sanitaire. Nous avions étudié de manière assez compréhensive, je devrais dire exhaustive, la réforme sanitaire. Eh bien ici, il s'agit de la réforme vestimentaire qui fait également partie de tous ces nouveaux devoirs qui ont été présentés au peuple de Dieu à mesure qu'il s'est dirigé et qu'il est entré par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, après le grand désappointement de 1844. Donc ce peuple adventiste qui a persévéré dans sa croyance que la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14 contenait bien une prophétie du temps, mais simplement qu'il n'avait pas bien compris de quelle période il s'agissait. Ces personnes-là sont entrées dans une période durant laquelle, et dans un processus durant lequel Dieu les a formés, Dieu les a guidés dans la vérité. Et donc au début, ils mangeaient du porc, ensuite ils ont cessé de manger du porc, et petit à petit, ils ont aussi mis de côté la consommation de toute viande, ainsi plus tard que du poisson qui est venu vraiment à la fin. Donc ça, c'était pour la réforme sanitaire. Nous avions vu cela. Et au sujet de la réforme vestimentaire, nous avions eu déjà la première partie que j'avais voulu volontairement large et presque non précise, afin que nous puissions nous attarder sur le fondement spirituel de ce que maintenant j'aimerais élargir dans ces principes plus pratiques. Nous avions exploré les principes fondamentaux. Maintenant, nous voulons nous attarder sur ce que j'ai intitulé en sous-titre la décence, la pudeur et la modestie. Pas selon notre conception de la chose, mais selon l'enseignement de la parole de Dieu sur ces concepts qui ne sont plus des concepts, mais qui deviennent des vérités à travers les paroles de la Bible. Et donc nous avons lu dans notre lecture biblique, j'y reviens brièvement, de Luc chapitre 10, versets 25 à 26. Hein, ce docteur de la loi venait à Jésus lui dire, lui demander, pour l'éprouver, « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Et, comme c'est écrit dans la Bible Martin, « Comment lis-tu ? » Comment lis-tu ? Pas simplement « Qu'est-ce qui est écrit ?» mais « Comment est-ce que tu lis ce qui est écrit ?» J'aimerais que nous nous attardions sur cette question en introduction. Parce que, vous voyez, frères et sœurs, il est écrit beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais la question, ce n'est pas tant de savoir si nous croyons à ce qui est écrit. Oui, nous croyons, c'est écrit, nous croyons en toute la parole de Dieu. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire, ou dire, et lire, beaucoup de personnes s'exprimer et s'exclamer, je crois en toute la parole de Dieu, la parole de Dieu est infaillible, etc. Nous sommes pris d'un tel enthousiasme, d'un tel engouement, semble-t-il, pour tout ce qui est contenu de la parole de Dieu. Mais la question, tout particulièrement dans cette étude-là, vis-à-vis de ce que nous voulons aujourd'hui étudier, la question, ce n'est pas tant de savoir si nous croyons à ce qui est écrit, à tout ce qui est écrit même, d'ailleurs c'est mieux, mais c'est de savoir comment nous lisons ces choses qui sont écrites. Hein, Jésus disait, qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Il a continué, il ne s'est pas juste arrêté là. Il a demandé, comment lis-tu ? Vous remarquez qu'au verset 27, l'homme lui répond, il lui dit, voilà ce qui est écrit dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Simplement, vous notez que le docteur de la loi à répéter ce qui était écrit, mais il n'a pas dit comment il le comprenait. Il n'a pas dit comment il le lisait. Et Jésus lui a dit, en supposant qu'il lisait correctement, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Fais cela, disait Jésus. Fais ce que la loi dit, fais ce que la parole dit et tu vivras. Simplement, comment lisons-nous ? C'est ça le sujet. Comment est-ce que je lis ce qui est écrit ? Comment est-ce que je le comprends ? Et donc, dans cette étude présente, ce que je vous propose et ce que nous voulons faire, c'est examiner un sujet peu populaire dans le monde chrétien, sans parler du monde en général. Et ce sujet dont j'aimerais que nous parlions, c'est celui du vêtement. Malheureusement, dans notre société moderne et chrétienne, le vêtement, c'est un peu comme l'argent, vous savez. L'esprit dans l'air, que l'on ressent et auquel on répond en conséquence, c'est plus ou moins, tu peux toucher à tout, sauf à ça. Tu peux parler de tout, à peu près, sauf de ça. Tu parles de tout, sauf de l'argent et du vêtement. Vous aussi, vous avez cet esprit ? Tu peux parler de tout, mon frère, sauf de mon argent et de mes vêtements. Nous voulons examiner aujourd'hui, frères et sœurs, si nous sommes animés d'un tel esprit, où nous compartimentalisons Dieu de telle sorte que Dieu a accès à une partie de moi, mais qu'il y a des parties de moi auxquelles Dieu n'a pas accès, et si Dieu veut y accéder, il est exclu. Nous voulons voir de quel esprit nous sommes animés et comment nous lisons ce qui est écrit, à savoir comment nous le comprenons. Mais nous nous poserons peut-être la question, la Bible parle-t-elle spécifiquement de nos choix vestimentaires? Parle-t-elle, est-ce qu'elle en parle spécifiquement, mon frère? Peut-être elle parle grossièrement, mais spécifiquement. La Bible parle-t-elle spécifiquement de nos choix vestimentaires? Et plus encore, sommes-nous prêts, mes frères et sœurs, sommes-nous prêts à donner à Dieu le droit de nous parler de ces choses-là? Je répète, sommes-nous prêts à donner à Dieu le droit de nous parler de ces choses-là, de notre choix vestimentaire, de nos choix vestimentaires, sans automatiquement considérer toute personne nous parlant de ces choses-là comme un légaliste? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à recevoir de l'enseignement sur la façon de s'habiller, de se revêtir, sans considérer la personne qui nous vient à nous en nous parlant de ces choses-là comme un légaliste? Oh, encore un légaliste. Encore un légaliste qui vient légaliser et me dire comment je dois m'habiller. Quel est notre esprit? Comment lisons-nous? Comment entendons-nous? Parce qu'il est écrit que la foi vient de par ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, Jésus disait « Comment lis-tu ?» Et on pourrait élargir la question de Jésus en disant « Comment entends-tu ? » Comment entendons-nous ce qui est prêché de la parole de Dieu ? Peut-être que nous lisons d'une certaine manière, très flou et brisé et brouillardé, pour ainsi dire. Et parce que nous lisons de cette manière, lorsque nous entendons la parole de Dieu prêchée, fût-elle prêchée aussi claire qu'elle le soit, eh bien nous disons, oh c'est son opinion. C'est son opinion. Comment lisons-nous? Comment entendons-nous? Comment comprenons-nous? Comment lisons-nous? Comment lis-tu? Comment entends-tu? C'est la question à laquelle nous voulons pouvoir répondre aujourd'hui individuellement. Et donc, frères et sœurs, cette introduction-là, mise à part et accomplie, nous voulons nous pencher sur les instructions bibliques sur le vêtement désormais. Pour cela, je vous invite à vous tourner vers les paroles de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5, et ensuite nous reviendrons dessus. Que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari. Que retenons-nous? Nous voyons ici que, si vous suivez avec moi, la parure de l'homme caché dans le cœur, c'était marqué au verset 4, la parure de l'homme caché dans le cœur, de cet esprit doux et paisible, nous est présentée comme d'une valeur et comme d'une beauté infiniment plus grande que les ornements superficiels, qui sont d'ailleurs proscrits. Vous le voyez ? L'homme caché, que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or, l'ajustement des habits, mais que ça soit l'homme caché dans le cœur, que ce soit ça votre parure. L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et nous apprenons que c'est de cette manière que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari. Les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui avaient foi en Dieu, qui étaient chrétiennes dans le type, en espérant au Messie à venir, qui sont des types de ce que les saintes femmes devraient être aujourd'hui, elles se paraient ainsi comment de l'homme caché dans le cœur, de l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, et qui devrait également être d'un grand prix devant nos yeux. Vous comprenez? Donc là, c'est l'introduction à notre agrandissement de cette méditation que nous allons poursuivre dans le passage suivant. Et donc vous notez ici, avant que je poursuive, que les saintes femmes d'autrefois se paraient de cet esprit doux et paisible, et par conséquent, leurs vêtements extérieurs coïncidaient avec leur parure intérieure. C'est ce que nous ressortons, c'est la leçon que nous ressortons si nous réfléchissons à ce qui est écrit. Parce que au verset 3, le verset 3 est mis en contraste avec le verset 4 et nous apprenons que le verset 5 est l'illustration due dans le passé de ces principes-là. C'est-à-dire, dans le passé, ils faisaient cela et donc ces femmes-là qui se paraient de cet esprit doux et paisible, qui est agréable à Dieu, d'un grand prix devant Dieu, elle ne se paraît pas, comme c'est marqué au verset 3, de l'entrelacement des cheveux, des ornements d'or ou de l'ajustement des habits. Vous savez, toutes ces modes qui vont changeantes avec beaucoup d'habits superficiels sur la personne. Comme c'était beaucoup en vogue alors et comme cela aussi peut être en vogue aujourd'hui, selon nos goûts et également selon nos us et coutumes. Si tant est que nous y adhérions aux us et coutumes du monde. Donc nous avons lu ici que la femme, tout comme l'homme, ce que nous allons voir juste après, la femme, tout comme l'homme, est encouragée à se vêtir de cet esprit doux et paisible et à se satisfaire, se contenter de cette parure-là, et à ne pas chercher une parure extérieure qui la rende agréable, alors que déjà, si elle a cet esprit de Christ, elle est agréable à Dieu. Vous voyez? Parce que souvent, nous substituons la beauté extérieure à la beauté intérieure, parce que nous n'avons pas la beauté intérieure, et nous voulons combler un manque que nous ne pouvons combler qu'en ayant cet article divin qui est obtenu par la confession, la repentance et l'abandon de nos péchés à Dieu, auquel cas nous recevons l'Esprit Saint et nous recevons par cet Esprit Saint l'Esprit doux et paisible qui est incorruptible parce qu'il est divin, cette nature divine. Et alors, nous sommes mus d'un esprit, animés d'un esprit qui est d'un grand prix devant Dieu. Quel est cet esprit? Ce n'est autre que l'Esprit de Christ. Et ce n'est autre que lui qui donne à nous-mêmes de la valeur parce que lui-même a donné sa vie à notre âme et lui-même a donné de la valeur à qui nous sommes. Sans quoi nous ne sommes que des vils pécheurs, mais Dieu nous a donné de la valeur en se sacrifiant lui-même pour nous et en montrant quel prix il nous donne. Vous comprenez? Dieu est celui qui déclare et qui définit et qui détermine quel est le prix de notre âme. Et nous pouvons nous-mêmes choisir d'être d'un grand prix ou d'être d'un minuscule petit prix selon que nous recevions ou que nous rejetions Jésus-Christ. Vous voyez? Donc la femme comme l'homme est appelée et encouragée et exhortée à se parer, non pas des habits superficiels, des ornements externes, mais de la beauté intérieure et qui seule est réelle. Qui seul est tangible et qui est hautement agréable à Dieu. est d'un grand prix à ses yeux. Et nous continuons cette pensée dans le passage de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 et verset 8 à 10. Ces principes sont importants dans la mesure où la femme, comme l'homme, est souvent enclin, elle-même ou lui-même, à chercher cette beauté, comme si elle était la réponse à ses angoisses, à ses complexes internes, alors qu'elle ne l'est pas, mais qu'elle satisfait une soif que seul Jésus peut satisfaire. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 à 10. Notez bien ici qu'il y a un parallèle qui est établi entre l'homme et la femme par lequel nous voyons qu'il n'y a pas d'exception de cet enseignement que la parole nous présente et que je tente ici aujourd'hui de nous communiquer. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation, et que, pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillements somptueux, mais de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. J'attire votre attention vers les mots du verset 9 où il est écrit que les femmes se parent d'un vêtement honnête. Dans la Bible Darby, dans la marge, il est écrit d'une tenue décente. C'est un peu bizarre, un vêtement honnête, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Bref, passons. Dans la Bible Darby, dans la marge, il est écrit, pour cette expression-là, d'une tenue décente. Et dans la Bible Second, il est marqué qu'elle s'habille de façon décente, si je m'abuse. Littéralement, c'est d'une tenue décente. C'est comme c'est écrit d'ailleurs dans la Bible King James. With modest apparel. C'est littéralement ça. D'une tenue, d'un costume, d'une tenue décente. Et vous noterez ici qu'il est écrit, au verset 9, et que pareillement les femmes, etc. Ce qui montre que les principes mentionnés ici, dans ce passage, sur la modestie, la pudeur et la décence sont également applicables à l'homme. Il ne faut pas que nous sortions de cette méditation avec l'impression qu'elle est exclusivement dédiée aux femmes. Ce n'est absolument pas le cas. Simplement, la parole de Dieu s'adresse premièrement aux femmes, mais en prenant en compte et en supposant que les hommes sont attentivement à l'écoute, discernés. Parce qu'il y a marqué, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation. Et ensuite, de la même manière que les hommes sont appelés à s'habiller modestement, avec décence, pudeur et modestie, aussi les femmes. Comprenez? C'est pas juste la femme. La femme, elle s'habille modestement et lui, l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Non. Ce n'est pas ça l'enseignement. Ce n'est pas ça l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, nous retenons, je l'ai mentionné, mais nous retenons donc ces trois termes. Décence, une tenue décente. Décence. Pudeur et modestie. Et en passant, que ces articles, comment dire, ces éléments d'ornement extérieur qui sont placés sur la personne sont proscrits par la parole de Dieu, à savoir les tresses de cheveux, les bijoux, parce qu'il n'y a marqué ni d'or ni de perles. Vous allez me dire, ah, mais l'argent, c'est bon. Non, la parole de Dieu, quand elle dit ça, c'est ni d'or ni de perles, c'est que ça veut dire qu'elle proscrit tout ce qui est bijouterie. Pourquoi? Parce que nous cherchons à être beaux alors que Dieu nous a déjà fait beaux. En fait, nous ne sommes pas contents de ce que Dieu a fait. Comprenez? Dieu n'aime pas cela. Non, la parole de Dieu proscrit les tresses de cheveux. Désolé, moi j'aime bien les tresses, mais la parole de Dieu me dit que la femme ne devrait pas s'habiller avec des tresses, donc je dis, c'est la parole de Dieu qui prime. Vous comprenez? Ça qui est important. Que nous ne disions pas, oui, mais moi je fais comme ça. Non. Moi je fais peut-être comme ça, j'ai peut-être fait comme ça, mais la parole de Dieu elle dit ça, ça met un point à toute réflexion. Point perdu. C'est fini. Nous changeons. Si nous voulons être en accord avec ce qui est écrit, avec Dieu, alors il nous faut nous conformer avec ce qui est écrit. Conformer à ce qui est écrit. Ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. Bon, c'est si nous avions de l'argent, vous me diriez. Bon, si vous avez de l'argent, que vous êtes tenté d'aller acheter du Louis Vuitton, voilà, vous avez la réponse. Ou bien, d'acheter des choses plus chères que ce que vous avez besoin. Des choses somptueuses, des choses simplement parce qu'elles ont une élégance que les choses moins chères n'ont pas. Mais si les choses moins chères ont la qualité, nous devrions simplement nous concentrer sur des vêtements de qualité sans chercher la gloire des hommes. C'est ça un peu que cela renferme. Quand bien même nous n'aimons pas, nous aurions peut-être des bijoux, nous orner. Mais Dieu nous apprend, comme nous le disions juste avant. Non, que votre parure ne soit pas cela. L'or, les bijoux, les perles, les tresses. La femme aime cela, elle aime bien s'ajouter plein de belles choses. Et cela excite l'homme. La parole de Dieu nie. La parole de Dieu, Dieu lui-même nous dit, ne fais pas cela. Ne fais pas. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Et donc, elle est là, tremblante, c'est quoi? C'est Christ. Oh. C'est Christ. N'est-ce pas bien? Un esprit doux et paisible. C'est lui. Donc si nous avons Christ en nous, nous avons cette parure qui est suffisante aux yeux de Dieu. Et donc aux yeux de Dieu, c'est suffisant. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que nous soyons boueux. Non. Nous sommes propres, pudiques, modestes, décents. Ça fait partie de la décence d'être propre, humblement élégant, mais pas habillé d'habillements somptueux, d'or et de perles et de tresses de cheveux. Passons. Mais ici, nous demandons, parce que c'est bien, là, nous avons quelques distinctions, quelques lignes bien tracées sur les bijoux, sur les tresses de cheveux. Dieu a vraiment couché sur le papier ici, à travers l'Esprit de Dieu, l'inspiration, des choses vraiment claires. Habillement somptueux, il faut que nous exercions notre bon sens, que nous, dans la prière, que nous considérions, quoique nous pouvons déjà avoir un ordre d'idée. Mais après nous demandons, face à ces concepts de décence, de pudeur et de modestie, nous demandons, comment lis-tu? Comment lisez-vous, mes frères et sœurs? Comment lisons-nous? Ou plutôt, comment comprenons-nous? Comment comprenons-nous ces mots-là? Parce que dans cette société, moralement décadente. Si nous nous fions à notre propre compréhension de la décence, à notre propre compréhension de la pudeur, à notre propre compréhension de la modestie, ne sommes-nous pas voués à sombrer dans de graves erreurs, ou bien à glisser dans des demi-réformes? Pourquoi? Parce que c'est la compréhension que nous nous sommes nous-mêmes forgés par nos idées, par ce que la société en dit. Mais si la société est moralement décadente, est-ce que ma définition de la décence, de la pudeur, de la modestie va suffire à mettre en harmonie ma parure extérieure avec la parure intérieure qui est Christ? Est-ce que cela va suffire? Est-ce que cela va coïncider? C'est ça que nous voulons contempler aujourd'hui. Et c'est ces interrogations auxquelles nous voulons des réponses bien claires pour savoir où nous nous trouvons et où est-ce que Dieu voudrait que nous allions et ce qu'il voudrait et ce qu'il désire que nous réformions. Et donc c'est pour cette raison que nous voulons écouter et contempler les clarifications inspirées de l'esprit de prophétie sur ces notions bibliques-là, pour lesquelles nous avons peut-être pour beaucoup formé des interprétations erronées. Nous voulons que Dieu nous éclaire à travers l'esprit de prophétie sur ces notions bibliques de la décence, de la pudeur et de la modestie, afin que nous en formions des conceptions bibliques, non pas personnelles et individuelles. Pour cela, j'aimerais que nous lisions ce passage de Évangélisée dans le livre Évangélisée, à la page 244 et au paragraphe 1 et 2. Comme d'habitude, ces déclarations vous seront fournies dans le fichier. Je lis et nous allons méditer sur ce qui est écrit ici. Un des points sur lesquels ceux qui viennent d'embrasser les vérités du message ont tout particulièrement besoin d'être instruits est celui du vêtement. Que les nouveaux convertis soient complètement informés à ce sujet. Font-ils preuve de vanité dans la manière de se vêtir? Nourrissent-ils des pensées orgueilleuses? Littéralement, ont-ils de l'orgueil du cœur? L'idolâtrie dans le vêtement est une maladie morale. On ne doit pas la transférer dans la vie nouvelle. Dans la plupart des cas, la soumission aux exigences de l'Évangile demandera un changement radical dans leur manière de se vêtir. Qu'est-ce que nous avons lu ici? L'un des points sur lesquels ceux qui viennent d'embrasser les vérités du message ont tout particulièrement besoin d'être instruits, c'est quoi? C'est celui du vêtement. Et pourquoi ce sujet-là est si important? Parce que nous lisons que l'idolâtrie dans le vêtement est une maladie morale. Donc, vous voyez ici, frères et sœurs, que ce n'est pas juste une question de simple formalité. La question du vêtement n'est pas une simple question de formalité. Il s'agit d'une maladie morale, d'une question morale qu'il nous faut aborder parce qu'elle s'est transformée en une maladie morale dont il nous faut guérir. Et le moyen par lequel nous guérissons de cette maladie, c'est par l'instruction de la parole de Dieu et par l'abandon de notre idolâtrie à Dieu et par le renouvellement de notre esprit par cette parole et par le sang de Jésus. Voilà pourquoi ce sujet est d'une telle importance. Je répète, le sujet du vêtement n'est pas simplement une réforme accessoire ou une question de pure formalité, il s'agit d'une question morale. Parce que je lisais, l'idolâtrie dans le vêtement est une maladie morale qui ne doit pas être transférée dans la vie nouvelle, littéralement. On ne doit pas l'introduire dans la vie nouvelle. C'est-à-dire, si nous avions été malades de cette maladie, il faut que nous en soyons guéris pour marcher en Christ et avec Christ. Si nous la menons avec nous dans la vie nouvelle, elle va nous poser des problèmes, comme cela a été et est le cas pour la grande majorité des chrétiens aujourd'hui. Et d'ailleurs, la dernière phrase nous dit que dans la plupart des cas, c'est le cas. Dans la plupart des cas, la soumission aux exigences de l'Évangile demandera un changement radical dans leur manière de se vêtir. Donc, autrement dit, si nous voulons nous soumettre pleinement aux exigences de l'Évangile aujourd'hui, aux exigences de la parole de Dieu, aux exigences de toutes ces révélations qu'il nous fait à travers à la fois la Bible et l'esprit de prophétie, eh bien, dans le domaine du vêtement, cela demandera de notre part un changement radical dans notre manière de nous vêtir. Mais je pose la question ici. Quelle est l'idolâtrie du vêtement? C'est une expression à laquelle nous ne sommes pas forcément familières, idolâtrie du vêtement. Nous comprenons l'idolâtrie, les personnes qui autrefois se prosternaient devant des idoles en fonte ou en or, en bronze, se prosternaient, c'était des idolâtres. Mais l'idolâtrie du vêtement, vraiment? Mais n'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Voilà ce que je vous suggère, c'est que l'idolâtrie du vêtement, c'est un attachement. Parce que qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est de prendre une idole et de l'adorer comme Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est une fausse adoration. C'est s'attacher à quelque chose de faux, comme si c'était le vrai. Et donc l'idolâtrie du vêtement, c'est un attachement fort à une certaine façon de s'habiller qui est contraire au principe biblique de la décence, de la pudeur et de la modestie. Et cette maladie morale qu'est l'idolâtrie du vêtement, eh bien, notez que elle atteint tout autant les hommes que les femmes, quand bien même elle fait tout particulièrement de la femme sa victime, car elle peut ainsi faire d'elle un instrument de tentation. C'est pour cela que ces choses sont premièrement adressées à la femme, mais dont l'homme n'est pas exclu. Vous comprenez? Parce que La femme va devenir l'objet des tentations du diable sur ce point-là afin de faire tomber à la fois elle et lui. Vous discernez, mes frères et sœurs. Tous sont concernés, mais la femme tout particulièrement. J'ai dit bien tous. Notez bien ici. Notez bien ce que je dis. D'ailleurs, notez le bien en lien avec ce qui est écrit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et que pareillement les femmes se parent d'un vêtement et d'une tenue décente. Maintenant, je continue la suite de la citation où il est écrit. On ne devrait pas être négligent dans la façon de s'habiller. Pour l'amour de Christ dont nous sommes les témoins, nous devrions chercher à nous présenter sous le meilleur jour. Hein, donc cela revient à ce que nous disions, c'est que le fait que nous considérions cette parure de l'homme caché dans le cœur, de l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, cela ne veut pas dire que nous devenons négligents dans notre façon de nous habiller. D'ailleurs, nous lisons que pour l'amour de Christ, dont nous sommes les témoins, nous sommes faits témoins de Christ par notre adoption, par notre acceptation de lui, pour l'amour de Christ, nous devrions chercher à nous présenter sous le meilleur jour. Et maintenant, notez bien ce qui est écrit juste en suivant. En relation avec le service du tabernacle, Dieu avait pris soin de mentionner chacun des détails se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en sa présence, nous montrant qu'il a une préférence, que Dieu a une préférence en ce qui concerne la manière de se vêtir de ceux qui le servent. Les instructions qui furent données au sujet des robes d'Aaron étaient très précises, car ces robes avaient un caractère symbolique. Les vêtements des disciples de Christ devraient eux aussi avoir un caractère symbolique. Nous sommes appelés à être en toutes choses ses représentants, la propreté, la modestie et la pureté devrait caractériser à tous égards notre apparence. Qu'est-ce que nous notons ici? La propreté, la modestie et la pureté devraient caractériser à tous égards notre apparence. Est-ce que vous avez noté ici quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez et que nous avons relevé ici? J'attire votre attention vers ce qui est marqué au début de cette citation, à savoir que, en relation avec le service du tabernacle, hein, dans ce sanctuaire dans le désert des Hébreux, Dieu avait pris soin de mentionner chacun des détails se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en sa présence. Il avait donné tous les détails de Aaron et de ses fils, de leur manière, de la manière dont ils devaient s'habiller. Et par cela, nous apprenons que Dieu a une préférence en ce qui concerne la manière de se vêtir de ceux qui le servent. Comment savons-nous que Dieu a une préférence quant à la manière de s'habiller de ceux qui le servent? Comment le savons-nous? Par les nombreux détails qu'il a pris soin de mentionner pour ceux qui devaient officier en sa présence, à savoir les sacrificateurs, à savoir tous les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Par les détails et les instructions qui ont été données pour eux, nous apprenons que Dieu a une préférence en ce qui concerne la manière de se vêtir de ceux qui le servent, à savoir de ceux qui le servent aujourd'hui. pas simplement de ceux qui le servent dans l'office de l'ancien ou du diacre, ou de quelque autre position, de l'évangéliste et du missionnaire, mais de tous ceux qui le servent dans le corps de Christ, parce que chaque membre du corps a une fonction. Chaque membre du corps de Christ sert Christ. Vous comprenez? Nous savons que Christ est la tête, mais chaque organe de notre corps humain sert à quelque chose. Dans ce sens-là, tous ceux qui font partie du corps et de l'Église de Christ lui servent à quelque chose, ou devraient lui servir, ne devraient pas enterrer leur talent. Et Dieu a une préférence dans notre manière de nous vêtir, parce que nous faisons partie de ce corps. Si nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons à ce corps, et Dieu a une préférence, c'est-à-dire que ce n'est pas juste nous faisons ce que nous voulons, c'est que Dieu a une préférence et qu'il désire que nous adoptions sa préférence comme une définition de sa volonté. Vous discernez? Ensuite, nous lisons que les instructions qui furent données au sujet des robes d'Aaron, qui était souverain sacrificateur, étaient très précises. Pourquoi? Pourquoi toutes ces instructions étaient si précises, si précisément données? Parce que ces robes avaient un caractère symbolique, elles symbolisaient quelque chose. Et donc vous vous diriez peut-être, on se dirait peut-être, bon, mais elles symbolisaient quelque chose en Jésus, mais nous c'est bon. Nous c'est bon, mon frère. Ça symbolise pas pour nous, c'est juste pour Jésus. Dites-moi, c'est comme ça que vous lisez? Jésus disait, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment l'es-tu? Comment est-ce que nous lisons? Je continue. Donc, ces robes d'Aaron avaient un caractère symbolique, c'est pour cela qu'elles étaient si précisément détaillées. Et maintenant, il y a marqué, de même, les vêtements des disciples de Christ devraient eux aussi avoir un caractère symbolique. Donc cela veut dire que toutes les mentions faites des détails très précis de comment devait être le vêtement d'Aaron, qui étaient justifiées par le fait qu'elles avaient un caractère symbolique, qu'ils avaient un caractère symbolique, se retrouvent transférées dans notre situation et dans notre cas aujourd'hui en tant que disciples de Christ, parce que nos vêtements aussi devraient avoir un caractère symbolique. Vous comprenez? Je lis l'esprit de prophétie ici. Nous croyons ou nous ne croyons pas. Mais si nous croyons, alors comment entendons-nous? Je vais nous aider ici. Je vous invite à vous tourner vers les paroles de Exode, chapitre 28, verset 2, où nous lisons précisément ces instructions qui furent données au sujet des robes d'Aaron ainsi que de ses fils. Exode chapitre 28. Toutes les choses que nous examinons ici, frères et sœurs, ont un but bien précis, c'est pour nous aider et pour que nous arrivions à voir le grand panorama de la vérité, notamment aujourd'hui sur le sujet de la pudeur, de la décence, de la pudeur et de la modestie. Et là, nous sommes en train d'arriver vers cet apogée de cette méditation. Nous allons pouvoir voir clairement tout le panorama. Je vous donne des petits points ici. Et quand nous arrivons à la fin du puzzle, là, tout est rempli. Et c'est à ce moment-là et maintenant qu'il nous faut être très attentifs. Dans Exode chapitre 28, verset 2, verset 4, ensuite verset 40 et verset 42, nous lisons au sujet précisément de ces instructions, en sautant toutes les mentions faites et toutes les instructions au sujet de l'éphod, du pectoral et de la tiare, parce que ça n'en a pas vraiment... ça n'a pas vraiment d'incidence sur la question de la modestie et de la pudeur. Donc je lis versets 2 et 4 tout d'abord. Exode chapitre 28 verset 2. Et tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour sa gloire et pour son ornement. Verset 4. Et voici les vêtements qu'ils feront, le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, pour qu'ils exercent devant moi la sacrificature. Verset 40. Tu feras aussi pour les fils d'Aaron des tuniques, des ceintures et des mitres pour leur gloire et pour leur ornement. Verset 41 à 42. Et tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, afin qu'ils tiennent depuis les reins jusqu'aux cuisses. Et Aaron et ses fils en seront revêtus quand ils entreront dans le tabernacle d'assignation ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, et ils ne seront point coupables et ne mourront point. C'est une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité après lui. Voilà les instructions que Dieu donna à Moïse au sujet des robes d'Aaron. Nous disons que ces instructions étaient très précises, n'est-ce pas? N'est-ce pas précis? Et encore, je viens de sauter une trentaine de versets et plus. Voilà combien ces robes et cet éphod et ce pectoral et cette tiare et ces tuniques et cette robe étaient précises, toutes les instructions à leur sujet. Elles étaient précises parce qu'elles avaient un caractère symbolique. Et nos vêtements aussi devraient avoir un caractère symbolique. Voilà les vêtements que nous notons qui ont été cités. Les caleçons de lin, les tuniques, la tunique, la robe, l'éphod, la ceinture, le pectoral et la tiare, ou la mitre. Donc vous voyez ici que tout cela a été très précisément mis en avant et le peuple de Dieu a été très précisément instruit, tout particulièrement les sacrificateurs. Et maintenant j'aimerais attirer votre attention vers cette mise en application de la gloire et de l'ornement. Parce que nous lisons, bon, c'est pour la gloire et l'ornement de Aaron, nous comprenons à moitié. Mais ici, nous voyons une mise en application directe de tous ces principes qui nous aident à mettre en contraste l'utilité et l'objectif de cette robe et de ce pléthore d'instructions au sujet de ces vêtements d'Aaron. Nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 26, où il est écrit Exode chapitre 20, verset 26. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité n'y soit pas découverte. J'ai cherché la définition du dictionnaire pour le mot degré et la première définition qui m'est donnée, c'est marche d'escalier. Autrement dit, il disait à Moïse et par extension à tous les autres sacrificateurs qui offriraient des offrandes à l'autel par la suite, dans le contexte des services du tabernacle, il disait « Tu ne monteras point à mon autel par des marches d'escalier. » Pourquoi ? Pourquoi ne dois-tu pas monter à l'autel par des marches d'escalier ? Je lis « Afin que ta nudité n'y soit pas découverte. » Dites-moi mes frères et sœurs, vous comprenez ? Comment lisez-vous ? Nous avons vu. Il y avait une échappatoire, c'est de dire, Nous allons d'ailleurs y revenir. C'est-à-dire, ça c'était pour eux. C'était pour eux, c'était symbolique, c'était pour eux. Mais nous avons lu dans l'esprit de prophétie que, de la même manière qu'elles étaient précisément... il y avait tant d'instructions précises qui étaient données pour les vêtements d'Aaron parce qu'ils avaient un caractère symbolique, de la même manière aussi, les vêtements des disciples de Christ devraient aussi avoir un caractère symbolique. Mais pourquoi est-ce que Dieu disait à Moïse et au sacrificateur qu'ils ne devaient pas monter par degrés à l'autel? Quelle partie de leur nudité pourrait bien être révélée et découverte en simplement montant par des marches d'escalier? Qu'est-ce qui serait révélé, frères et sœurs? Le bas du pied, la cheville, peut-être le bas du mollet, n'est-ce pas? Et Dieu disait, tu ne monteras point à mon autel par un escalier pour qu'on ne voie pas tes chevilles et tes mollets. Et donc ceci nous montre que, d'une part, premièrement, les tuniques étaient assez longues, parce que faut que vous joigniez les bouts l'un entre les autres pour arriver à lire entre les lignes ici. C'est-à-dire que ceci nous montre, ce verset nous montre que, d'une part, les tuniques étaient assez longues pour ne laisser entrevoir aucune nudité. Parce que Dieu n'aurait pas fait... Je mentionne cela parce que je vois beaucoup d'illustrations sur l'Internet avec les sacrificateurs et des tuniques qui leur arrivent en dessous du genou. Mais je ne sais pas, on ne lit pas la même Bible. Mais Dieu, il se contredit ou quoi? Vous comprenez? Est-ce que Dieu va dire à Moïse et à Aaron par la suite qu'ils ne devaient pas monter à l'autel par des degrés de peur que sa nudité au niveau des chevilles et des mollets soit découverte, mais ensuite il va donner aux Lévites des tuniques qui leur arrivent en dessous du genou? Il faut être sérieux un peu. Donc vous voyez, il ne faut pas croire tout ce que nous voyons. Par contre, il nous faut croire et comprendre tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous lisons ici? Comment lisez-vous, mes frères et sœurs? Je viens de vous dire, et nous venons ici d'explorer comment Dieu lit, comment Dieu entend sa propre parole. Comment Dieu l'entend-il? Il l'entend que les tuniques étaient assez longues pour ne laisser entrevoir aucune nudité. À savoir, elles allaient jusque au bas du pied. Vous comprenez? Et d'autre part, deuxièmement, cela nous montre que Dieu ne désirait pas qu'on voie la moindre partie de la nudité des sacrificateurs. Et rappelez-vous, son vêtement, le vêtement d'Aaron, était symbolique, de même que nos vêtements devraient être symboliques. Et donc, symbolique de quoi, nous poserons la question? Nous nous posons la question. De quoi devait être, de nos vêtements devraient-ils être symboliques? Du fait que nous nous parons intérieurement de la justice de Christ, du caractère de Dieu, qui est doux et paisible. Voilà de quoi les vêtements extérieurs devraient être un symbole de cette parure intérieure. Et comment est-ce que Dieu entendait représenter cette réalité intérieure à travers la parure extérieure des sacrificateurs en les revêtant d'une telle manière qu'on ne voit pas leur nudité. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus, le témoin fidèle et véritable, dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, il dit notamment, dans ce dernier verset, je crois que c'est verset 18, Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Pourquoi? Afin que ta nudité ne paraisse point. Vous comprenez? Donc, Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi le vêtement de ma justice, de te revêtir de mon caractère, de te revêtir de l'homme, du nouvel homme qui est Christ. Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi mon exemple, d'adopter mon exemple, d'adopter les principes de ma vie que j'ai exemplifié dans ma vie. Et ensuite, nous voyons maintenant la part concrète de cette parure interne. Comme nous l'avons vu dans les passages précédents, dans 1 Pierre et dans 1 Timothée chapitre 2. Vous voyez, ces choses sont liées les unes entre les autres. Parce que lié au fait que la femme comme l'homme devrait se parer de cet homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, de la même manière aussi, nous lisons que les hommes comme les femmes devraient s'habiller d'une tenue décente, de pudeur et de modestie. Donc vous voyez que les deux choses, l'intérieur et l'extérieur, sont liées parce que l'extérieur doit symboliser l'intérieur. Et donc, si l'extérieur ne symbolise pas ce que nous pensons avoir à l'intérieur, alors, comme d'ailleurs c'est écrit autre part dans l'esprit de prophétie, si l'extérieur est incomplet, il va représenter ce qu'il y a aussi d'incomplet à l'intérieur. Il va exprimer notre manque d'harmonie avec le caractère de Christ. Parce que nous en savons peu sur Christ, sur la manière qu'il désirait que nous nous habillions, et nous, également, nous en savons peu sur lui, dans le caractère qu'il voudrait que nous possédions. Vous discernez? Donc ça, c'était pour de quoi est-ce que ces vêtements devraient être symboliques, à la fois ceux du sacrificateur et les nôtres. Et pour répondre à une question, enfin, à une remarque qui est un peu jetée dans tous les sens et que j'ai un peu modernisée, on va se tourner vers les paroles de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Verset 9 et 10. Parce que vous me direz, mais tout ça, mon frère, c'était pour eux. Nous, on a dépassé tout cela. Nous vivons sous la grâce. Pour nous, c'est l'évangile, non? C'est de la grâce aujourd'hui, non? Donc tout ça, c'est révolu, non? C'était juste pour eux, ça. Eux, ils étaient sacrificateurs, Dieu avait prévu tout ça pour eux. Maintenant, nous, c'est comme ça. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, je lis. Mais vous, s'adressait ici Pierre aux chrétiens, mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avait obtenu miséricorde. Donc maintenant que nous avons obtenu miséricorde, que nous sommes bien en effet sous la grâce de Dieu, comme d'ailleurs aussi les patriarches l'étaient, mais c'est un autre sujet, maintenant que nous faisons partie et que nous sommes maintenant le peuple de Dieu, que nous avons obtenu la miséricorde de Dieu, que sommes-nous? Que sommes-nous? Une race élue. Une sacrificature royale. Oh. Et donc vous voyez, En réalité, on pourrait dire même que nous sommes doublement plus sacrificateurs que eux ne l'étaient. Et donc, parce que c'est une sacrificature royale, eux c'était une sacrificature symbolique et typique. Symbolique et typique de quoi ? Symbolique de Christ et typique de la sacrificature royale de tous les croyants. Et d'ailleurs, cela revient à ce que Luther, Martin Luther, hein, le fameux réformateur de la fin du Moyen-Âge, c'est ce que Luther enseignait précisément dans sa doctrine du sacerdoce universel. Il disait que tous les chrétiens sont des prêtres. Vous savez, parce que dans l'Église catholique, il y a cette idée que, bon voilà, les prêtres, ils sont un sacerdoce à part et ils sont différents des laïcs. Mais Luther, il disait, non, 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 ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Dans la Bible, il est écrit, et il se référait précisément à ce verset que nous venons de lire, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que tous les chrétiens sont des prêtres. Il disait aussi, mais c'était selon sa compréhension, et tous les prêtres sont des chrétiens. Parce qu'il ne s'est jamais vraiment complètement séparé de cette forme d'organisation ecclésiastique, mais ça c'est une autre question. Mais il disait, tous les chrétiens sont des prêtres, à savoir, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Et donc ces principes qui s'appliquaient sur le vêtement aux Lévites, donc à Aaron et à ses fils, s'appliquent à plus forte raison à nous, frères et sœurs. Tu ne monteras pas à mon autel par des degrés. À savoir, si notre vie est une offrande continuelle à Dieu, comme c'est marqué dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, alors chacune de nos minutes et de nos heures et de nos journées, pas juste le sabbat, pas juste la réunion de prière, chacune de nos heures, de nos minutes et de nos journées devrait être un acte de sacrifice à Dieu. Nous sommes impliqués dans le service de Dieu et Dieu nous dit, tu ne monteras pas à l'autel par des degrés afin que ta nullité ne soit pas découverte. Dans chaque chose que nous faisons, il ne faut pas, et Dieu désire, qu'on ne voit pas notre nudité. Pourquoi ? Parce que cela brise le symbole. Vous discernez, frères et sœurs ? Cela brise le symbole. Dieu veut que nous soyons ses représentants. Il veut qu'à travers nous, notre vie, nos agissements, également notre vêtement, nous le représentions. Nous symbolisions l'esprit doux et paisible. Comment ? Par un vêtement concret et réel et tangible, de la même manière qu'il l'avait stipulé pour Aaron et ses fils. Vous discernez. Donc je répète, la question du vêtement, ce n'est pas simplement une formalité, c'est une question morale, c'est une question de spiritualité. C'est une question de sacerdoce. Sacrificature royale. Vous êtes sans cesse, nous faisons sans cesse, nous occupons sans cesse le poste d'ambassadeur, à ce titre, selon ce que je viens de lire. Une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Les vertus morales et symbolisées dans le vêtement. Ce n'est pas juste, non, mais moi c'est bon, j'ai Christ, j'ai tout ce qu'il faut. Dieu dit, je veux que tu le symbolises. C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas nous qui définissons les termes, comment on dit ? Les termes d'affrontement, les termes de guerre, les termes de conflit. Non, nous devrons coopérer avec Dieu. Nous devrions être ouvriers avec Dieu, comme la parole de Dieu dit. Donc si Dieu dit une chose, nous voulons aller dans le sens de Dieu. Il dit, je veux que tu symbolises, mon enfant, que tu symbolises la justice de Christ, l'esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Comment ? Par cette manifestation de décence, de pudeur et de modestie. Comment la décence ? Comment la pudeur ? En ne pas laissant paraître notre nudité. tel que ce fut illustré dans ce verset d'Exode chapitre 20, verset 26, pour lequel j'aimerais nous donner ici une illustration concrète de l'esprit de prophétie, afin que rien ne nous manque pour parvenir à des conclusions sereines sur la question. Je lis dans le périodique, la revue périodique The Health Reform du 1er mai 1872 au paragraphe 18, où il est écrit ceci. Nous ne pouvons pas, disait Sir White, et l'esprit de prophétie, nous ne pouvons pas, même si nous le voulions, dissimuler le fait que les femmes ont des pieds et des jambes, faits pour être utilisés. Mais en ce qui concerne l'exposition, c'est un autre aspect de la question. Nous avons beaucoup voyagé, disait-elle, au cours des 25 dernières années, et nous avons assisté à de nombreuses expositions indécentes des membres, savoir les bras et les jambes. Mais l'exposition la plus courante est celle observée dans les rues sous une neige légère ou boueuse et mouillée. Les deux mains sont nécessaires pour soulever la robe afin qu'elle ne prenne pas l'eau et la saleté. C'est chose courante de voir les femmes relever leur robe à 40 cm du sol, exposant ainsi des chevilles presque nues à la vue des hommes. Mais nul ne semble embarrassé par cette exhibition indécente. Il n'est aucun esprit sensible et pudique qui semble scandalisé pour la simple raison que c'est d'usage. C'est la mode et pour cette raison on le tolère. On n'entend aucun tollé contre l'indécence, bien que ce soit le cas au sens le plus large du terme. Est-ce que vous avez compris ? Donc ici, Sir White était en train de montrer que le principe qui nous était présenté dans Exode chapitre 20, verset 26, au sujet du fait que nous ne devrions pas monter à l'autel par des degrés, que le sacrificateur ne devait pas monter à l'autel par des degrés, à savoir par des marches d'escalier de peur que sa nudité ne soit découverte, s'applique dans l'esprit de prophétie et qualifié d'indécence. Vous avez discerné? Qu'est-ce que c'était? Quelle était cette indécence que l'esprit de prophétie nous mentionne et qui devient désormais, dès lors, notre définition d'indécence, d'impudeur et d'immodestie? Et elle disait, parce que à l'époque, ils avaient ces longues robes qui couvraient tout, sauf qu'elles étaient tellement longues qu'elles raclaient le sol et qu'elles prenaient avec elles toute l'eau et la poussière. Donc elle disait, Sir White disait d'ailleurs dans cet écrit, oui, c'est vrai que ces robes-là sont modestes dans ce sens-là, simplement elles ne sont pas modestes et elles ne sont pas décentes dès qu'il faut faire ce qu'elle vient de dire ici. Je le lis, je le relis. C'est chose courante, disait-elle, de voir les femmes relever leur robe à 40 cm du sol, exposant ainsi des chevilles presque nues à la vue des hommes. Mais nul ne semble embarrassé par cette exhibition indécente, l'appelait-elle. Exhibition indécente. C'est-à-dire que leur robe était relevée à 40 cm du sol, que leurs chevilles et leurs mollets étaient exposés à la vue des hommes, et l'esprit de prophétie nous dit que c'est là une exhibition indécente. Dites-moi, frères et sœurs, où en sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous été tant conditionnés que nous non plus, nous ne rougissons plus devant de telles indécences? N'est-ce pas le moment, frères et sœurs, pour des vraies réformes? Non pas simplement dans le manger et dans le boire, mais dans le vêtement. Pas pour satisfaire quelconque homme, mais pour satisfaire Dieu. N'est-ce pas Dieu ici qui demandait à Moïse, comme à Aaron et ses fils, et par extension à nous, car nous sommes une sacrificature royale, n'est-ce pas lui, n'est-ce pas Dieu, qui demandait et qui demande aujourd'hui encore que nous couvrions notre nudité? Si nous avons pris l'habitude de porter des robes qui laissent apparaître cette nudité, quand bien même nous avons peut-être des chaussettes, la nudité, c'est la forme de la personne. Cette forme, la parole nous dit, elle n'appartient pour la femme qu'au mari et pour le mari qu'à la femme. Est-ce que nous exposons à toutes les personnes concernées ou pas concernées les choses qui n'appartiennent que dans l'intimité du mariage? Ou est-ce que nous montrons à tous ce que seul Dieu devrait voir et ce qui devient alors une exposition indécente pour reprendre les paroles de l'esprit de prophétie? Nous voulons représenter, symboliser l'œuvre que Dieu a fait et accompli aujourd'hui encore en nous. Et nous voulons le faire en entrant nous-mêmes aujourd'hui en harmonie avec ces principes, ces préceptes bibliques que Dieu a donnés, non pas comme un fardeau, mais comme pour nous préserver des nombreuses insinuations de l'ennemi en ces derniers jours. Nous voulons nous préserver nous-mêmes et également préserver les autres, ceci tout particulièrement pour la femme, qui a été fait à une telle envergure l'objet des attaques du diable. Il faut que nous désirons donc, frères et sœurs, apprendre à nous satisfaire de cette parure qui est d'un grand prix devant Dieu, et à prendre plaisir à ce qui sera inévitablement une croix au début. L'esprit de prophétie nous disait, Sir White nous disait, je remercie Dieu pour la croix de la réforme vestimentaire. Est-ce que nous aussi, nous allons remercier Dieu? Puissions-nous discerner l'appel à la décence et nous rappeler que nous sommes en tout temps faits sacrificateurs, le sacerdoce universel des croyants. Tout chrétien, tous les chrétiens sont des prêtres. Et en tant que prêtres, ambassadeurs, en tant qu'ambassadeurs, nous devrions toujours nous présenter sous notre meilleur jour. Ne pas paraître négligé devant nos proches, devant les frères et sœurs, de peur que nous ne représentions pas Christ comme il se doit. À tout instant, puissions-nous nous comporter et être vus et considérés comme des ambassadeurs. Puisse Dieu dire, cet homme-là, cette femme a compris et désire me représenter, désire symboliser Christ en lui ou en elle. J'aimerais revisiter ces paroles d'un Pierre chapitre 2, verset 9 à 12. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. ayant une conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, en voyant vos bonnes œuvres. Amen.